Et mon premier appel ce soir, c'est l'appel de Bertrand. Bonsoir Bertrand.
Bonsoir Sabine.
Soyez le bienvenu Bertrand.
Merci beaucoup.
Qu'est-ce qui vous amène ?
Le deuil d'une de mes nièces.
Ah, qu'est-ce qui s'est passé ?
Elle était alcoolique.
Mmh. Depuis longtemps ?
Oui, ça faisait longtemps. Elle avait fait plusieurs cures.
Oui.
Et elle était venue me voir, passer Noël avec moi, avec sa fille, pour Noël 2019. Et elle était fan de Louis de Funès, comme moi.
Moi
aussi. On avait regardé Pouic Pouic ensemble. Mmh. Elle m'avait demandé de regarder Pouic Pouic. Et j'entends toujours ces éclats de rire pendant le film, et c'est de ça dont je me souviens.
C'est un beau souvenir, c'est ça qu'il faut garder, vous savez, quand ceux qu'on aimait sont partis.
Oui.
C'est de garder leur sourire, leur voix. C'est important. Quel âge avait-elle, cette femme ?
45 ans.
Et qu'est-ce qui s'était passé dans sa vie pour qu'elle soit alcoolique ?
Je ne suis pas sûre.
C'était la fille de qui pour vous, alors ?
La fille de mon frère.
La fille de votre frère, d'accord.
Moi, j'ai 57 ans et mon frère a 77 ans.
D'accord. Et vous aviez toujours été proche d'elle ?
Oui.
Ouais. Comment vous expliquez cette relation particulière que vous avez eue ?
C'est mes parents. Ce sont mes parents qui l'ont élevée pratiquement parce que ses deux parents travaillaient. Et elle était plus souvent à la maison que chez elle. Donc elle a grandi avec moi, en fait.
C'était presque comme une sœur.
Oui, exactement.
Oui, vous n'aviez pas tant d'écart d'âge que ça, finalement.
Ben non, j'ai 57 ans et elle en avait 45. Elle est morte le 14 novembre dernier.
Et comment ça s'est passé, alors, la fin de sa vie ?
Elle était à l'hôpital, elle avait des champignons dans le foie et puis partout dans le corps, et on n'a pas pu la sauver.
Est-ce que ça avait été prévu par les médecins ? Est-ce qu'elle le savait ?
Pas vraiment.
Non. Et vous non plus, du coup, j'imagine que ça a été très brutal ?
Ah oui, ça a été très brutal, et pour mon frère aussi.
Bien sûr.
Et ma belle-sœur. Et sa fille.
Elle a une fille de quel âge ?
Elle a une fille qui a maintenant 18 ans. Mmh. Elle avait 17 ans quand elle est venue avec elle passer Noël avec moi. Et cette fille avait aussi perdu son père 7 ans plus tôt à cause de l'alcoolisme aussi.
Et la pauvre, ça fait beaucoup ça.
Oui.
Est-ce que vous êtes proche d'elle aussi ?
Un peu plus éloigné.
Mm.
Je n'ai pas beaucoup eu le temps de la connaître. Mm.
Mais vous, on vous sent effectivement encore profondément dans l'émotion de ce départ, de ce décès. Hein.
Oui. Oui, c'est vrai.
Elle vous manque terriblement, j'imagine.
Pardon ?
Elle vous manque beaucoup ?
Oui.
Est-ce que vous avez fait quelque chose depuis son décès pour elle ? Je ne sais pas, comme un album souvenir ou retrouver des choses à écrire ou des choses comme ça qui peuvent vous donner un temps pour penser vraiment à elle et faire quelque chose dans ce sens ?
Pas vraiment, non. J'ai eu le courage de revoir Pouic Pouic une fois en pensant à elle.
Mm-hmm.
Et ça m'a fait du bien. Parce que pendant le film, je l'entendais rire avec moi.
Est-ce que vous avez l'impression quelquefois que vous sentez sa présence encore ?
Oui.
Ça vous fait du bien, ça ?
Oui, ça me fait du bien.
Mm-hmm. Et votre frère, il est comment est-ce qu'il est maintenant ? Comment est-ce qu'il vit ce deuil ?
Il a du mal à s'y faire aussi, et sa femme aussi.
Redites-moi, quand est-ce que c'est arrivé ?
Le 14 novembre 2020.
Oui, donc c'est effectivement encore très, 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 très frais, très récent. Hein.
Oui.
Mais vous savez que chacun vit bien sûr le deuil différemment, mais il y a toujours des phases que vous allez traverser, forcément. Ce qu'on appelle les différentes phases du deuil, et petit à petit pour aller jusqu'à une cicatrisation, c'est-à-dire non pas l'oubli, parce que le deuil n'est jamais un oubli, c'est une cicatrisation d'une blessure.
Bien
Ça
sûr.
prendra du temps, et c'est normal que ça prenne du temps.
Oui.
Malheureusement, il n'y a pas de secret pour aller plus vite dans ce temps-là. Chacun avance dans les étapes du deuil et les traverse en fonction de ce qu'il est, de ce qu'il a vécu, en fonction de la relation qu'il avait avec la personne qui est partie. Il n'y a que le temps qui cicatrise. Peut-être pourriez-vous faire ce que je vous suggérais il y a un instant, c'est-à-dire prendre un temps chaque jour pour peut-être retrouver des photos, écrire des choses pour elle, peut-être si vous êtes à l'aise avec Internet, monter une page pour elle ou un blog pour réunir un peu la famille en souvenir d'elle, non? Des choses comme ça. Est-ce que vous pensez que ça pourrait vous faire du bien?
Peut-être.
Parce que vous savez, quand on perd quelqu'un, il y a un immense vide, et ça vous le savez mieux que moi, bien sûr, en ce moment, puisque vous êtes en train de l'affronter. Et l'une des choses à faire, c'est d'arriver à remplir ce vide petit à petit.
Oui.
Avec des gestes différents, avec des rituels différents. Et passer déjà un peu de temps chaque jour, soit à écrire, soit à récupérer des photos, soit à transmettre quelque chose en souvenir de la personne qui est partie, c'est déjà une manière de remplir ce vide.
Oui. Mon frère m'a dit qu'il avait retrouvé des photos de nous deux en train de rigoler parce que on s'amusait beaucoup ensemble.
Mais je trouve ça beau parce que vous mentionnez beaucoup ce rire et c'est intéressant. Enfin, c'est beau de se souvenir du rire de la personne qui est partie.
Oui, elle riait beaucoup,
Ouais.
ma nièce.
Malgré ses souffrances, d'après ce que j'entends.
Oui.
Et oui. Et vous savez, c'est la première année qui est la plus dure. Parce que c'est pas seulement le deuil de la personne, c'est tout ce qu'on faisait avec elle et tous les projets qu'on avait qu'il va falloir enterrer aussi.
Oui, maintenant elle ne viendra plus passer Noël avec moi.
Voilà, et puis c'est là qu'on se rend compte qu'on ne peut plus téléphoner à la personne, effectivement, qu'on n'entendra plus sa voix, des tas de choses comme ça. Et chaque étape est un petit deuil supplémentaire. Et c'est vrai que la première année, c'est vraiment l'année la plus difficile, la plus douloureuse.
Oui.
Est-ce que vous avez des livres qui peuvent vous accompagner sur ce chemin du deuil?
Pas vraiment, non.
Vous n'avez pas envie d'en découvrir?
Si.
Alors, je suis désolée pour tous ceux qui écoutent très régulièrement la Libre Antenne et qui connaissent par cœur mes conseils, mais une fois de plus, je n'ai pas trouvé mieux. Moi, j'ai deux auteurs que je trouve exceptionnels sur ce terrain-là. C'est
Oui.
Jean-Jacques Charbonnier.
Oui, je vous ai entendu parler de ça.
Alors, je vous recommande vraiment les ouvrages de Jean-Jacques Charbonnier, notamment La mort expliquée aux enfants et aux adultes aussi. Plus
D'accord.
d'autres livres qu'il a écrits qui sont très très bien. Et puis il y a les livres de Anne Ancelin-Schützenberger, ou Schützenberger, je ne sais jamais comment ça se prononce. Anne Ancelin, en tout cas, ça suffit à trouver déjà ses références. Qui en a écrit aussi beaucoup. À vous de choisir dans sa bibliographie tout ce qui concerne le deuil. Elle a écrit très jolis livres aussi là-dessus.
D'accord.
Je suis en train d'en chercher un troisième qui m'échappe. Alors attendez. Qui a écrit La mort est un nouveau soleil, qui est un très très joli livre. Je regarde si j'arrive à récupérer.
L'auteur.
Alors, Anne Ancelin, un des très beaux livres que je vous recommande, c'est Sortir du deuil.
D'accord.
Et c'est, voilà, pardon, c'est évidemment, c'est Elisabeth Kübler-Ross qui a écrit La mort est un nouveau soleil. Voilà, Elisabeth Kübler-Ross. Ce
D'accord.
sont trois personnes qui, humainement, sont fantastiques et qui ont écrit des livres qui parlent très très bien de tout ça.
Je vous
De
remercie.
la mort, de l'accompagnement et de comment on peut faire au mieux, parce qu'on est tous concernés par ça, évidemment.
Évidemment,
Où on le
j'ai
sent.
perdu mes parents aussi.
Il y a combien de temps?
Maman en 2005, papa 10 ans plus tôt.
Ouais. Et ce qui est difficile, ouais. C'est que souvent, quand on perd quelqu'un comme ça, ça réactive les deuils précédents.
Oui, surtout celui de maman. Ma mère, qu'est-ce que j'ai pleuré. J'en pleure encore en 10%.
Qu'est-ce qui lui est arrivé à cette maman?
Elle était cardiaque. Elle avait un pacemaker et puis finalement, on n'a pas pu la réanimer et elle en est morte. Mmh. Elle avait 83 ans.
Oui, et forcément, quand on affronte un nouveau deuil, les chagrins des anciens deuils remontent à la surface.
Oui.
Mais c'est comme des vagues, vous verrez, ça finit par s'apaiser. Ça s'apaise toujours. Ça met du temps, mais ça s'apaise.
D'accord.
Et je pense vraiment que les livres que je vous ai conseillés vont vous aider dans cet accompagnement sur ce chemin du deuil.
Je vous remercie.
Et est-ce que vous avez, vous, dans votre vie, des gens qui vous soutiennent en ce moment?
Pas beaucoup. J'habite Londres et pour l'instant, tout est en arrêt. Mmh. Mais j'ai une amie très proche qui s'appelle Claudette et malheureusement, je ne la vois pas beaucoup en ce moment parce qu'on est chacun chez soi à cause du Covid. Mais sinon, on se téléphone de temps en temps.
Oui, ça fait du bien de partager avec des amis aussi, parce que votre famille est directement impactée, donc j'imagine aussi que c'est difficile de leur infliger un chagrin qu'ils ont déjà.
Oui.
C'est pour ça que dans ces cas-là, c'est bien de se tourner vers ses amis. Comment ça se fait que vous êtes à Londres? Qu'est-ce que vous faites là-bas?
Je suis à Londres depuis 1984. J'ai fait beaucoup de choses. J'étais prof de chant à l'université de Londres. Mmh. J'ai été ambulancier aussi.
Ah oui, c'est pas le même secteur, ça.
Et puis, j'ai eu un AVC en 2010. Mmh. Et maintenant, je suis pré-retraité à cause de mon handicap.
Vous avez gardé des séquelles de cet AVC, c'est ça?
Oui, oui.
Lesquelles?
J'ai la vue qui a pas mal baissé, mais ça va, c'est revenu un peu. Et j'ai la jambe gauche que je contrôle difficilement. Je tombe facilement. Mm. Je trébuche facilement.
Donc il faut que vous soyez vigilant, quoi.
Oui, exactement.
Et où est-ce que vous en êtes à Londres, là, avec le Covid? Comment est-ce que vous vivez ça, vous?
Ben, j'ai eu le premier vaccin. Il paraît qu'on commence à déconfiner maintenant. Mmh. On va voir comment ça se passe.
Vous n'avez pas été touché personnellement, vous, par la maladie?
Non.
Non. Et vos proches non plus?
Non.
Bon, ben c'est déjà une bonne nouvelle, ça.
Oui.
Vous restez avec moi, Bertrand, on marque une pause et je vous récupère tout de suite.
Merci.
Merci à vous.
Vous aussi, venez vous confier à Sabine Marin en appelant le 3921. 50 centimes la minute.
À Barbotan-les-Thermes, paradis champêtre de Gascogne, nous prenons soin de vos articulations, de vos jambes, de votre santé. Chaîne thermale du soleil, prendre soin de vous, c'est notre métier.
Bertrand.
Oui, ce fut rapide.
Ce fut rapide, je voulais pas vous faire attendre trop longtemps. Dites-moi, il y a un sujet qu'on n'a pas abordé ensemble. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de l'après, quand quelqu'un s'en va comme ça? Est-ce que pour vous, c'est fini ou pas?
Je ne suis pas certain.
Personne ne l'est, ça c'est sûr.
Non, mais je crois qu'il y a quelque chose après. Mm. Mais pourtant, je ne suis pas croyant, mais je crois qu'il y a quelque chose après. Parce que un jour, enfin il y a très longtemps, j'ai perdu une amie qui était chanteuse d'opéra, comme moi. Et elle s'appelait Pam. Et Elle est décédée, son mari me l'a fait savoir, et je suis allé la voir à la mortuaire. De temps en temps, je la voyais chez moi, dans le corridor, dans mon appartement, et ça me faisait peur. J'en ai parlé autour de moi, et on m'a dit, va au SAGB, Spiritual Association of Great Britain.
Association spirituelle de Grande-Bretagne, c'est ça?
Oui.
Oui.
J'y suis allé, j'ai pris rendez-vous, et j'ai vu un spiritualiste, Philippe Conde. Quand il m'a vu dans la salle d'attente, il m'a dit tout de suite, « Ah, tiens, c'est à vous que je dois m'adresser. » Il m'a fait rentrer dans une petite pièce, il m'a dit, « Ça fait un petit moment que Pam vous attend. » Alors, je suis tombé des nues.
Vous n'aviez jamais prononcé son prénom?
Pardon?
Vous n'aviez jamais prononcé son prénom devant lui?
Non, jamais, ouais. Non. Et puis, il m'a dit certaines choses de moi en me disant que Pam, ça ne l'embêtait pas que je sois comme ci ou comme ça, que ça lui était égal et que tout allait bien quand même. Mais des choses qu'il n'aurait pas pu savoir. Donc c'était très intéressant.
Vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui rapportent des témoignages comme le vôtre.
Oui, sûrement.
Et je trouve que ça peut être apaisant quand même quand on a perdu quelqu'un de se dire que c'est pas fini.
Oui.
Et que peut-être votre nièce maintenant elle est en paix, comme on dit, et plus dans les tourments qu'elle a vécu ici.
Sûrement. C'est ce que je me suis dit dès le départ. Elle ne souffre plus.
Oui, ça fait partie de ce qu'on se dit sur ce chemin de l'acceptation des choses, de la vie.
Malheureusement, sa fille est orpheline deux fois.
Oui, mais c'est une jeune adulte maintenant. Elle va s'envoler de ses propres ailes.
Oui, elle a 18 ans maintenant. Oui. Et elle est élevée par mon frère et ma belle-sœur, qui ont tous les deux 77 ans, vous voyez. Donc ils sont assez âgés pour avoir une jeune fille de 18 ans comme ça.
Oui, mais au moins elle est entourée, elle n'est pas à la rue toute seule.
Non.
Et puis vous n'êtes pas très très loin.
Non.
Ce sera peut-être aussi l'occasion de vous rapprocher d'elle.
Oui, on verra.
Quand elle aura besoin de parler de sa maman.
Oui.
Je pense que vous
serez... Je l'y invite de toute manière.
C'est ce que j'allais vous dire, vous serez une bonne oreille pour ça.
Oui, oui.
Et puis peut-être pouvez-vous lui conseiller les livres que je vous ai recommandés, ça lui fera du bien à elle aussi.
D'accord.
Bertrand, comment s'appelait votre nièce?
Pardon?
Comment s'appelait votre...
Elle s'appelait... Muriel.
Pardon, Muriel, c'est ça?
Muriel, oui.
Alors, si vous le permettez, on va avoir une douce pensée pour Muriel.
D'accord.
Et puis moi, je vous embrasse très très fort.
Merci, moi aussi.
Au revoir, Bertrand.